VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 15 juillet 2015, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. À la une ce matin.
Nouveau cas d'Ebola au Libéria, d'où les craintes d'une nouvelle flambée de la fièvre hémorragique dans ce pays, déclaré libre de la maladie le 9 mai dernier.
Plusieurs personnes soupçonnées d'être des djihadistes ont été arrêtées lundi dans le sud du Mali, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire.
Le président du Rwanda, Paul Kagame, pourrait se maintenir au pouvoir au-delà de 2017. Le Parlement a voté hier pour supprimer la limitation du nombre de mandats.
Et sur le plan international, les dirigeants du monde ont salué l'accord conclu à Vienne concernant le nucléaire iranien.
Et ne manquez pas la Minute Éco et les sports. Tout d'abord, le journal.
Le Libéria a enregistré un nouveau décès dû à l'Ebola, ce qui fait redouter une nouvelle flambée de la fièvre hémorragique dans ce pays. Ce pays déclaré libre de la maladie le 9 mai dernier. Les précisions de Michel Joseph.
La dernière victime, une femme, est décédée peu après son admission dans un hôpital de Monrovia. Elle vivait près de la capitale libérienne et sa sœur faisait partie de 5 habitants du comté de Marghibi, chez qui la maladie a été détectée. C'est le deuxième décès des suites de l'Ebola au Libéria depuis que le virus a refait surface le mois dernier dans ce pays. Une situation qui fait craindre une propagation du virus dans le comté de Montserrado, qui inclut Monrovia. Un rapport envoyé à l'équipe de lutte contre l'Ebola et que cite l'agence Reuters souligne que la victime est morte peu après son arrivée à l'hôpital, ce qui signifie que le traçage des chaînes de contact des premiers cas n'a pas été rigoureux. 16 membres de la famille de la défunte ont été placés en quarantaine. De l'avis des spécialistes, le virus de l'Ebola est peut-être demeuré à l'état latent au Libéria et a pu être réactivé par un survivant à travers des rapports sexuels. L'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 11 200 morts en Afrique de l'Ouest, reste encore active en Guinée et en Sierra Leone.
Santé toujours après l'annonce d'une chute de 35% des infections par le virus VIH au cours des 15 dernières années, le secrétaire général de l'ONU a estimé qu'une génération prochaine sans sida est possible. Le monde a réussi, nous avons réussi et dépassé les objectifs concernant le sida. Nous allons vers une génération sans sida, a déclaré Ban Ki-moon à Addis Abeba, où se tient une conférence internationale sur le financement du développement.
Plusieurs personnes soupçonnées d'être des djihadistes ont été arrêtées lundi dans le sud du Mali, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ils ont été transférés vers Bamako, Henri Francisca.
Ils sont au moins 15 présumés djihadistes qui ont été arrêtés lundi soir à Zegoua, dans la région de Sikasso. Située à environ 460 km de Bamako, Zegoua est la première ville malienne après la frontière ivoirienne. Les personnes arrêtées voyageaient dans un car justement en provenance de la Côte d'Ivoire. Selon une source sécuritaire citée par l'AFP, ces suspects ont été transférés mardi à Bamako. Parmi eux figurent des Maliens, des Mauritaniens, et certains étaient en possession de passeports français. Selon l'AFP, leur identité est en cours de vérification. À ce stade de l'enquête, il est clair que ce ne sont pas des voyageurs normaux qui ont été arrêtés, a affirmé à l'AFP une seconde source de sécurité, précisant que deux des passagers arrêtés ont reconnu être des membres de la Dawa, une secte islamiste.
Le président du Rwanda, Paul Kagame, pourrait se maintenir au pouvoir au-delà de 2017. En effet, le Parlement a soutenu par un vote unanime une pétition de plus de 4 millions de Rwandais pour faire lever la limite de 2 mandats présidentiels prévus dans la Constitution. Les sénateurs et les députés se sont donc prononcés à l'unanimité en faveur d'une réforme constitutionnelle. Des amendements doivent encore être votés avant qu'une nouvelle Constitution soit soumise à un référendum.
L'ONU s'est dit préoccupée par la décision des autorités centrafricaines de refuser le droit de vote à la présidentielle du 18 octobre aux centrafricains réfugiés dans les pays voisins. Le 30 juin dernier, le CNT a rejeté les dispositions du projet de loi électorale permettant aux réfugiés centrafricains de voter. C'est ce qu'a dit à la presse à Genève un porte-parole du ACL, Léo Dobbs, ajoutant que ceux qui souhaitent voter sont obligés de revenir en Centrafrique.
République démocratique du Congo, l'ONU et l'armée mènent des opérations efficaces contre les rebelles des forces révolutionnaires patriotiques de l'Ituri, a déclaré ce mardi devant le Conseil de sécurité le chef de la MONUSCO. Selon Martin Kobler, les efforts communs ont permis de neutraliser environ un quart des forces des FRPI depuis le 3 juin dernier. C'est ce que rapporte l'AFP.
L'archevêque sud-africain à la retraite Desmond Tutu a été admis dans un hôpital du Cap pour ce qu'on qualifie d'infection persistante. Selon sa famille, il ne devrait pas passer plus de 2 jours à l'hôpital. Tutu a été traité pour un cancer de la prostate depuis de nombreuses années. Âgé aujourd'hui de 83 ans, il avait remporté le prix Nobel de la paix en 1984 pour son opposition à l'apartheid en Afrique du Sud. Alors qu'il a annoncé sa retraite de la vie publique en 2011, il continue de voyager beaucoup et de faire des apparitions publiques.
Le tourisme en Tunisie va-t-il pouvoir se relever des suites des attentats de Sousse et du Bardo? La mesure prise par la Grande-Bretagne de déconseiller formellement à ses ressortissants de se rendre en Tunisie il y a quelques jours a été ressentie comme un véritable camouflet par les autorités tunisiennes. Claire Morin-Gibourg.
Pris 2 semaines après l'attentat de la station balnéaire de Sousse, durant laquelle 30 citoyens britanniques avaient été tués, l'avis négatif émis par Londres de déconseiller formellement la Tunisie comme destination touristique a été très mal vécu dans le pays. Les professionnels du tourisme tunisien jugent la mesure très inquiétante, la qualifiant de véritable perte de crédibilité pour leur secteur. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne tente d'atténuer sa décision par la voix de son ambassadeur Hamish Cowell, qui s'est exprimé sur la radio privée Shems FM. « Nous voulons revenir sur ce conseil aux voyageurs aussitôt que possible », a-t-il affirmé, assurant que le Premier ministre britannique David Cameron s'était entretenu avec son homologue tunisien Habib Essid à ce sujet. Le Premier ministre tunisien a de son côté assuré que son pays avait fait tout son possible pour protéger les intérêts étrangers. Le soir même de l'attentat, la Tunisie avait annoncé le déploiement de plus d'un millier de policiers armés supplémentaires dans les zones touristiques. L'attentat du 26 juin est la pire attaque djihadiste de l'histoire de la Tunisie. Outre le choc qu'elle a suscité dans le pays et à l'étranger, c'est aussi un coup dur pour le tourisme, déjà affecté par l'instabilité qui a suivi la révolution de 2011.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Programme nucléaire iranien de Washington à Moscou, en passant par Téhéran, les dirigeants du monde ont salué l'accord conclu à Vienne, y voyant la chance d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Seul Israël dénonce une erreur historique, Jean-Roger Bion.
L'accord parachève d'intenses négociations entre l'Iran et le groupe des 6 puissances pour solder ce dossier qui empoisonne les relations internationales depuis 12 ans. Cet accord important et historique peut contribuer de manière essentielle à la paix et à la stabilité dans la région et au-delà, a estimé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Londres, Paris, Moscou ne tarissent pas d'éloges et à Berlin, la chancelière Angela Merkel a salué un succès important de la diplomatie internationale, appelant même à une application rapide de l'accord. Le président américain Barack Obama va donner ce mercredi à la Maison-Blanche une conférence de presse pour donner l'avis des experts, une réplique ou critique des républicains au Congrès qui pourrait faire obstacle à son application. Le chef de l'exécutif américain va répondre également aux questions des journalistes sur l'accord décrié avec virulence par Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays n'était pas lié par l'accord, dénonçant une erreur historique et prévenant qu'Israël saura toujours se défendre.
L'armée irakienne et ses alliés paramilitaires ont attaqué les positions du groupe État islamique mardi vers Ramadi. L'offensive vise à reprendre aux djihadistes la capitale de la province d'Anbar.
Le gouvernement grec a présenté au Parlement une nouvelle législation dure de sauvetage de l'économie. Le projet de loi présenté hier comporte de nouveaux impôts, une réforme des retraites et une surveillance plus étroite des finances publiques.
Enfin, il était sain d'esprit et a méticuleusement préparé son geste. C'est ce qu'a estimé un procureur américain lors des plaidoiries finales du procès mardi de l'auteur présumé de la fusillade meurtrière d'il y a 3 ans dans un cinéma du Colorado lors d'une première d'un film de Batman. La tuerie du 20 juillet 2012 avait fait 12 morts.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Présenté ce matin par Camille Gros-Didier.
La générale des carrières et des mines, la GECAMINE, la compagnie minière étatique de la République démocratique du Congo, affirme avoir signé un accord de coopération avec une société chinoise, la China Non-Ferrous Metal Mining Company. Elle aurait ainsi vendu ses concessions de Louis Wishi et de Lukuni au fabricant chinois Huayu Cobalt Company. Dans un communiqué, la société affirme avoir vendu ses permis miniers de cuivre et de cobalt provenant de sa filiale, la compagnie minière du sud de Katanga, pour un montant de 52 millions de dollars à l'entreprise Congo Dongfang International Mining SARL, filiale congolaise de Huayu Cobalt Co. Dans un autre communiqué, la GECAMINE déclare avoir signé un accord cadre de coopération stratégique avec la compagnie minière CNMC. La Grèce va avoir besoin d'un allègement de sa dette qui aille bien au-delà de ce que ses partenaires européens s'apprêtent à envisager. Tel est l'avertissement lancé par le Fonds monétaire international qui évoque la désagrégation de l'économie et du secteur bancaire de la Grèce au cours des deux dernières semaines. Et puis les ventes au détail ont connu une baisse surprise en juin aux États-Unis sur fond de baisse des ventes automobiles. C'est ce qu'a indiqué mardi le département du commerce. Et comme la consommation des ménages reste le moteur traditionnel de la croissance économique américaine, ce chiffre est de mauvais augure. D'autant que c'est la troisième fois que l'indicateur retombe dans le rouge depuis le début de l'année.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Timothée Dounangmaï.
Bonjour Bagassi.
En cyclisme, Chris Froome écrase le Tour de France.
Tout à fait Bagassi, le Britannique de l'équipe Sky a assommé la grande boucle hier dans la 10e étape qu'il a outrageusement dominée dans la montée de la Pierre Saint-Martin. Le premier col hors catégorie du Tour 2015 a provoqué de très gros dégâts, surtout après le démarrage de Froome à 6,5 km du sommet. Froome, qui a ainsi conforté son maillot jaune, est distancé de plus d'une minute le Colombien Nairo Quintana. L'Espagnol Alberto Contador, autre favori, a cédé près de 3 minutes au sommet dans l'écrin de roches de calcaire blanchâtre qui enserre la station des Pyrénées-Atlantiques.
On reste en cyclisme pour parler du Tour du Bénin qui a effectivement démarré ce lundi. C'est par un critérium à Djougou que cette 12e édition a démarré et c'est le gagnant Samuel Anim qui a remporté cette première épreuve et endosse ainsi au passage le maillot jaune. Il a devancé le Burkinabé Yakuba Yameogo. Ce mercredi, les cyclistes seront à Parakou, toujours dans le nord du pays, pour un second critérium d'une distance de 70 km. Enquête du Sénat brésilien au sujet de la Confédération nationale de football. C'est une ancienne gloire du football brésilien passée à la politique qui en a la charge.
Tout à fait, Bagassi, c'est le sénateur Romário qui avait requis l'enquête lorsque le scandale de corruption au sein de la FIFA avait éclaté au mois de mai. Il préside désormais la commission d'enquête installée hier et qui a pour mandat d'examiner des allégations de corruption dont font l'objet certains responsables de la Confédération brésilienne de football. Il faut dire que l'ancien vice-président de cette confédération, José Marian Marine, fait partie des personnes interpellées à Zurich en rapport avec le scandale de la FIFA.
Eh bien, on reste en football pour parler des transferts.
L'attaquant international néerlandais Robin van Persie, qui évoluait à Manchester United, a signé hier un contrat de 3 saisons avec le club turc de Fenerbahçe avant d'être présenté à quelques 10 000 supporters ravis. Le joueur de 31 ans, 98 sélections, qui était arrivé en Turquie dimanche pour s'engager avec le club après 3 saisons à Manchester United, a signé son contrat à l'intérieur du stade Sukru Sarakoglu où l'ont acclamé des supporters réunis pour sa présentation officielle. Laissé libre par l'AEL Limassol, le milieu défensif international mauritanien Diallo Guidiley, 25 ans, va s'engager à Nancy. Un contrat de 2 ans attend l'ancien Troyen et Brestois qui a convaincu le staff Lorrain. Et puis les supporters argentins de Boca Juniors ont exulté lundi en accueillant Carlos Tevez de retour dans le club de son cœur après 11 ans d'exil en Europe. Manchester City et United et ainsi que Juventus à son meilleur niveau.
Merci Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Bagassé Koura. Place maintenant au dossier du jour. Au Congrès américain, les réactions divergent largement après l'annonce d'un accord entre l'Iran et les puissances mondiales en vue de garantir le caractère civil et pacifique du programme nucléaire iranien. Cela est significatif dans la mesure où les législateurs devront se prononcer sur ce document dans les 60 prochains jours. On fait le point avec Chérubin Dorsil.
Sans trop de surprise, le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a critiqué l'accord comme étant, et je cite, « la meilleure entente acceptable pour l'Iran au lieu de celle qui pourrait mettre fin au programme nucléaire iranien ». Il semble que les Iraniens ont prévalu dans ces négociations en gardant des milliers de centrifugeuses, en améliorant la limite de leur capacité nucléaire au lieu d'y mettre un terme et en bénéficiant de plusieurs milliards de dollars qu'ils pourront consacrer librement à leurs activités terroristes, a dit le sénateur républicain du Kentucky. Pour sa part, le chef de la minorité démocrate, le sénateur Harry Reid du Nevada, a affiché un optimisme mesuré. La communauté internationale reconnaît, dit-il, qu'un Iran nucléaire est inacceptable et constitue une menace pour notre sécurité nationale. Maintenant, il incombe au Congrès d'examiner cet accord à travers un processus réfléchi, avec le sang-froid que mérite un accord de cette envergure, a dit M. Reid. Sonne cloche identique à la Chambre basse, où le Speaker, le président de l'Assemblée, John Boehner, accuse le président Barack Obama d'avoir abandonné ses propres objectifs de la négociation avec l'Iran. Dans le camp démocrate, le leader de la minorité, Nancy Pelosi, a fait remarquer que l'accord est le fruit de plusieurs années de leadership éclairé et hardi du président Obama dans des circonstances difficiles. Et au cas où l'Iran s'aviserait de ne pas respecter ses engagements dans le cadre de cet accord, toutes les options restent disponibles, a ajouté la députée de la Californie qui dit ne pas se faire d'illusions concernant le régime iranien. Après un examen de 2 mois, le Congrès américain votera, s'il le veut, pour ou contre l'accord. Quoi qu'il en soit, le sénateur Chris Coons, démocrate du Delaware, a dit à la Voix de l'Amérique qu'il espère passer au peigne fin les détails de cet accord entre l'Iran et le groupe des six. Je dois équilibrer ma profonde méfiance de l'Iran et mes préoccupations au sujet de ses intentions avec l'espoir qu'il pourrait y avoir une solution diplomatique. Quant au sénateur Mitch McConnell, il n'a pas caché ses intentions, même s'il n'a pas promis de voter contre l'accord. S'il nous faut combattre un mauvais accord, une entente viciée qui menace notre pays et nos alliés, je vous assure que nous le ferons, a dit Mitch McConnell. Cependant, le président Barack Obama a promis d'opposer son veto à toute tentative du Congrès visant à dérailler l'initiative. Pour surmonter le veto du président, il faudrait qu'un bloc de démocrates se joigne aux républicains afin d'obtenir la majorité des 2/3 requises, ce qui n'est pas tout à fait certain.
Visite aux États-Unis pour participer, entre autres, à une réunion de l'International socialiste, le ministre malien de l'Extérieur, le docteur Abdramane Sila, a évoqué la problématique des migrants. Le Mali, il faut le dire, est un point de passage de milliers d'aspirants à l'émigration originaire d'Afrique subsaharienne qui y font escale avant d'affronter le désert du Sahara pour tenter de gagner l'Afrique du Nord. Et justement, l'International socialiste a adopté à l'occasion de sa réunion à New York la charte des droits des migrants. On écoute le docteur Sila au micro de Kadiatou Traoré.
Je ne dirais pas peut-être que les Européens hésitent aujourd'hui à prendre des mesures. Au contraire, les mesures qu'elles sont en train de prendre sont les mesures idoines. C'est ça la question. Parce que je ne crois pas que la solution consiste à vouloir maintenir les frontières hermétiquement fermées, ce qui ne diminuera en rien cette vague et cette tentation des jeunes à vouloir aller un peu dans ces pays-là, à la recherche d'un bien-être. Alors vous savez, ce débat, depuis plus d'un an, existe au sein de l'international socialiste. Je pense que l'international socialiste s'est réuni autour de la question au Maroc en 2014 et a décidé d'élaborer une charte des droits des migrants. Et une seconde réunion s'est tenue aussi au Maroc en 2015 pour adopter une déclaration sur les naufrages qui sont assez répétitifs dans la Méditerranée et déplorer cette situation-là. Au cours de l'Assemblée générale de l'IS qui s'est tenue à Mexico l'année dernière, je crois que ce débat a été aussi à la une de l'actualité au sein de l'international socialiste. Nous avons largement débattu de la question et il avait été retenu le principe effectivement de travailler sur une charte des droits des migrants, une charte que nous venons d'adopter au cours de cette Assemblée générale de New York. Nous sommes convaincus qu'on ne peut pas parler de mondialisation, mondialisation financière, mondialisation des échanges des marchés internationaux et dire que les hommes ne pourront pas bouger en même temps, qu'il y a des murs entiers qui se dressent. Et aussi, c'est le lieu de dénoncer un peu cette attitude qui consiste à avoir ceux qui ont droit, comme les pays nantis, qui ont droit à tout, y compris cette libre circulation des personnes et des biens, et ne pas admettre que les autres aussi puissent se déplacer. Je crois que c'est là où le paradoxe existe et vraiment l'international socialiste est tranchant sur la question. Aujourd'hui, la question de la citoyenneté internationale se pose plus que jamais.
L'international socialiste qui est un grand regroupement des socialistes à travers le monde, quelle a été la contribution des pays africains dans la conception de la charte des migrants?
Je voudrais dire que chaque pays a contribué, comme vous le savez, lorsque le débat est posé, chaque intervenant prend la parole pour essayer d'apporter sa pierre dans l'édifice. Effectivement, il y a un comité migration qui existe au sein de l'international socialiste qui est présidé aujourd'hui par le Maroc, donc un pays africain, et qui contient en son sein un pays comme le Mali, dont je suis également membre, avec l'Italie, l'Espagne et quelques autres pays. Ce projet de charte d'ailleurs qui vient d'être adopté est pratiquement le fruit de ce que nous-mêmes nous avons apporté comme contribution à ce débat-là.
Voilà, c'était le docteur Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Maroc, les quatre jeunes arrêtés à Marrakech pour n'avoir pas respecté le jeûne du Ramadan publiquement ont été condamnés hier à 2 mois de prison avec sursis. Un jugement plutôt clément puisque l'article 222 du Code pénal punit la rupture au public du jeûne pendant le mois de Ramadan d'une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison ferme, souligne Wadi El Hankouri. Il est le président de l'antenne française de l'Association marocaine des droits de l'homme.
On peut se réjouir que les jeunes n'ont été pas condamnés à une peine lourde comme le stipule le code pénal, mais notre combat reste d'abroger cet article et de garantir la liberté de conscience, la liberté individuelle d'une manière générale.
Est-ce que vous avez l'impression que la situation s'est dégradée, s'est détériorée ces dernières années en matière de liberté ?
Pour aller plus loin, je vais quand même contextualiser la situation politique d'une manière générale au Maroc où il y a une régression nette des droits civils et politiques, notamment avec la clémence de la justice vis-à-vis des agresseurs des jeunes filles d'Inès Gan. Dans ce cas où l'État continue à négliger ses engagements vis-à-vis des élections nationales ou elle-même a signé des protocoles qui garantissent la liberté de conscience et la liberté individuelle, sauf que cela, en fait, c'est une image que l'État marocain essaie de vendre à l'étranger, mais qui n'est pas le cas, malheureusement, au Maroc. Et au-delà de cette histoire, il y a d'autres cas qu'on peut constater, notamment le cas des homosexuels qui sont arrêtés et qui sont jugés à des peines lourdes. Et notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, l'État marocain, notamment à travers le projet de loi qui est en cours, que tous ces articles qui portent atteinte à la liberté individuelle cessent. Et malheureusement, aujourd'hui, cette non-garantie des libertés individuelles sont de plus en plus nombreuses. C'est surtout en fait le contexte général, parce qu'on a pu constater qu'il y a des appels au meurtre au Maroc contre des intellectuels, comme le cas de Ahmed Arafid, des appels au meurtre contre des chiites, alors que l'État marocain ne fait rien pour que ces personnes soient jugées. Donc il y a quand même une complicité de l'État marocain qui, d'une manière indirecte, encourage ces gens à aller plus loin dans leur acte. Et par exemple, les agressions que les femmes subissent au Maroc, au lieu de poursuivre les agresseurs on poursuit les victimes. C'est comme d'ailleurs le cas de la torture au Maroc, quand quelqu'un est torturé, on poursuit les victimes. Et ça concerne malheureusement plusieurs aspects de la société marocaine. Aujourd'hui, on est vraiment dans une période de régression très nette.
Voilà, Wandy El Hankouri, président de l'antenne française de l'Association marocaine des droits de l'homme. Il était joint à Paris par Claire Morin-Gibourg.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les objectifs du millénaire pour le développement ont été atteints quant à la réduction des infections au VIH et les morts causées par le sida. C'est en tout cas ce qui ressort d'un nouveau rapport des Nations Unies. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon les statistiques onusiennes, le taux de nouvelles infections est tombé de 35% et celui de morts dues au sida de 41%. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui-même annoncé la bonne nouvelle à la presse hier à Addis Abeba.
Today, 15 million people are on life-saving HIV treatment.
Aujourd'hui, 15 millions de personnes suivent un traitement sauvant leur vie. 15 millions, cela signifie que des milliards de familles sont protégées et des milliards de dollars économisés. Et cela signifie aussi que nous nous acheminerons vers une génération libérée sans sida.
And it means we are on our way for an AIDS-free generation.
L'Afrique subsaharienne a toujours été la région la plus affectée par la pandémie, mais les progrès sont signalés sur le continent. La Namibie, le Sénégal et l'Éthiopie, qui ont réduit sensiblement leur taux des nouvelles infections, sont cités un exemple. Selon le rapport de l'ONU, l'accès au traitement a permis de sauver quelque 7,8 millions de vies à travers le monde. Ce traitement signifie également que 1,4 million d'enfants n'ont pas été infectés par leur mère. Par ailleurs, estime Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, dans 6 ou 8 mois, les personnes séropositives pourront cesser de prendre leurs pilules quotidiennes.
Soon we know that we will have one injection.
Bientôt, nous aurons une injection tous les 4 ou 6 mois, ce qui va changer complètement la manière dont nous fournissons nos services aux pauvres. Ils n'auront pas à voyager, ils n'auront pas à venir, ils n'auront pas à stocker ces pilules et courir ainsi le risque de voir ces pilules perdre leur efficacité et créer une résistance aux médicaments. Les injections réduiront le coût de traitement pour les patients. Malgré tous ces développements prometteurs, il reste encore beaucoup à faire. En 2014, il y avait encore 2 millions de nouvelles infections et plus de 13 millions d'enfants ont perdu un parent ou tous les deux à cause du sida. Les objectifs du Millennium pour le développement doivent être remplacés cette année par les objectifs pour le développement durable, le nouvel objectif pour 2030 et l'éradication totale de la pandémie et l'accès au traitement pour tous.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur l'après-tuerie de Charleston aux États-Unis, relations entre blancs et africains-américains, port d'armes, actes qui relèvent du terrorisme. Quels sont, d'après vous, les enseignements que peuvent tirer les Américains de cette fusillade de trop? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Baby blue staring in the window pane, just counting drops of rain. Wondering if she's got the guts to take it. Running down her dreams in a dirty dress, now her heart's a mess. Keep
Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Bagasti Koura ici à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.